Et donc, on arrive au chapitre de l'interpellation de Madame Longechâle. Je vous en prie.
Par mail en date du 5 mai dernier, nous vous avons sollicité afin que vous nous fournissiez la feuille de route de la police municipale telle qu'elle a été communiquée à la Chambre régionale des comptes. Nous vous demandions également quels étaient les chiffres précis vous ayant permis de communiquer dans Infographe sur la baisse de la délinquance à Elkirch, ainsi que sur le détail des dépenses concernant la police et la sécurité que vous affichez à 2% du budget prévisionnel 2024. Le 24 mai, votre directeur de cabinet m'a communiqué un document intitulé « Bilan opérationnel pour 2023 de la police municipale ». Cela ne répond évidemment pas à ma première demande, qui était de disposer de la feuille de route de la police municipale communiquée à la Chambre régionale des comptes. Je renouvelle donc ma demande, puisque le document bilan 2023 n'est qu'une compilation de chiffres, de manière d'ailleurs très désordonnée, ne permettant absolument pas de comprendre quelles sont les priorités. Quelques exemples des questions auxquelles devrait répondre une feuille de route non abordée dans le bilan. Le lien entre les priorités et les moyens y consacrés n'apparaît pas. Par exemple, l'activité principale semble être le relevé d'infractions routières, mais pourquoi faudrait-il doter les agents d'un armement aussi massif, notamment flashball, pour travailler sur ce type d'infraction ? Pourquoi créer une brigade motocycliste ? Quel apport en attendre en termes de sécurité publique ? Alors que l'investissement, tant dans le matériel que dans la formation, est important. Comment est utilisée la vidéosurveillance dans laquelle vous continuez à investir? Quels sont ses objectifs en matière de prévention et de répression de la délinquance? Vous souhaitez étendre le périmètre d'intervention de la police municipale par le biais de la signature de conventions avec la CTS, mais aussi avec l'université. Avez-vous été sollicité par ces structures pour intervenir dans les transports publics et sur le campus? Y a-t-il dans ces lieux une réelle problématique de sécurité et de tranquillité publique? Le document transmis reprend dans sa conclusion le fait qu'il y aurait une diminution de 7% des actes délictueux. Mais aucun chiffre de 2022 n'étant présenté, il est difficile de se faire une idée de la réalité de cette baisse et de son lien avec l'augmentation des effectifs de police. Par ailleurs, les tableaux et graphiques contenus dans ce document sont très confus. Tout cela est donc ininterprétable. Je ne sais pas si les autres conseillers municipaux ont bénéficié de l'envoi du document. Le préambule du bilan indique que la police municipale est placée sous l'autorité du maire, alors même que la Chambre régionale des comptes avait demandé à ce que ce service soit rattaché au directeur général des services. Le DGS n'a sans doute pas relu ce document bilan avant diffusion. Cela aurait sans doute permis au moins de corriger les incohérences manifestes. Quant aux détails du budget que j'avais sollicité, votre directeur de cabinet me répond que tout est dans le budget prévisionnel 2024. Oui, certainement, mais pas de manière transparente. C'est bien pour cela que nous souhaitions connaître le détail de ce que vous comptabilisiez pour arriver à 2% du budget en fonctionnement, en investissement. Là aussi, je me vois contrainte de renouveler ma demande. Peut-être autoriserez-vous, monsieur le directeur financier, à nous apporter les explications nécessaires par écrit ou lors d'un rendez-vous à convenir. Au final, force est de constater que nous n'avons toujours pas une vision claire des objectifs prioritaires de la police municipale, ni de son mode de fonctionnement, ni bien sûr de l'adéquation de ses moyens par rapport aux objectifs. Nous demandons donc une nouvelle fois que nous soit communiqué le projet de service rédigé en 2023 et communiqué à la Chambre régionale des comptes. Merci.
Merci, Madame Longechâle. Alors, décidément, c'est vrai que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Alors, après, je sais qu'on n'est pas forcément en accord dessus, mais je vais m'employer à vous lire le document Orientation relative aux missions de la police municipale 2023-2026 qui a été transmis à la Chambre régionale des comptes. Et donc qui dit, comme ça au moins vous aurez une lecture exhaustive, le service de la police municipale est un service essentiel à la mise en œuvre d'une politique visant à assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité des habitants de la ville d'Ilkirch-Grafenstaden. C'est un service dont la municipalité s'est dotée et qui est en évolution depuis maintenant plus d'un an. Elle doit constamment s'adapter aux fonctions des attentes, des besoins et des doléances de la population. Afin de permettre à ce service d'assurer efficacement ses missions, il est impératif de lui assigner des objectifs clairs, donc ça répond, constituant les éléments de la mise en œuvre d'une politique sécuritaire cohérente, que ce soit en direction de la population, des institutions, des acteurs économiques ou des services et élus de la ville d'Ilkirch-Grafenstaden. Ces objectifs ainsi fixés, Il s'agira de définir et de mettre à disposition du service les moyens nécessaires pour les atteindre, tant dans l'exercice de ses missions propres que dans l'organisation de son fonctionnement interne ou de ses relations partenariales. Un état des lieux pour l'année 2022 permettra de mettre en place les orientations pour les prochaines années. Et donc, l'état des lieux a été fait, et donc il y a plusieurs points. Les regroupements de jeunes qui causent des troubles à la tranquillité des habitants, notamment dans les secteurs Liberman, Résidence Beaulieu, Résidence Beaucite. Dans la majorité des cas, les mêmes groupes, composés de jeunes mineurs, ignorant toute notion de civisme, génèrent ces troubles. La consommation de produits stupéfiants est un fait récurrent constaté notamment lors de contrôles concernant des infractions au code de la route ou lors de contrôles d'individus occasionnant des troubles divers, nuisances sonores, incivilité. Les riverains nous apportent régulièrement par téléphone leurs témoignages concernant des individus consommant des stupéfiants dans les halls d'immeubles ou à proximité de leur lieu d'habitation, particulièrement la nuit. Les squats identifiés sur la commune sont de manière récurrente signalés par les bailleurs sociaux. Habitat de Lille pour les secteurs Liberman, Roseau dans les halls d'immeubles et les caves. Et la Somco pour les copropriétés, rue de Burkel et rue Vincent Scotto dans les caves. Ces frais sont pris en compte par nos agents en journée pour les halls et dans les caves lors des services de nuit. Les nuisances sonores représentent un nombre constant et important de doléances. Ces faits relèvent d'origines diverses qui peuvent aller de bruit de vie au bruit occasionné par des travaux, des volumes sonores de musique élevée, des aboiements de chiens, des regroupements d'individus aux abords d'habitations, des rodéos, etc. Les dégradations de biens publics sont régulièrement relevées par les espaces verts, avec des canards brisés, notamment au Fort Urich, des dégradations observées dans les jardins familiaux, des vols de végétaux, etc., mais aussi occasionnées par des taxes sur des bâtiments publics. Le nombre de dépôts sauvages est élevé sur le banc communal, notamment sur le secteur sud, route des Chaux particulièrement, où nous effectuons des constats de manière récurrente. Des procédures sont établies chaque fois qu'un élément permet de le faire. D'autres sites sont également régulièrement touchés, notamment le chemin du Routoir, le parc d'innovation ou encore le chemin de la Harte. La ville n'échappe pas au problème de déjection canine. Le problème revient majeur avec l'arrivée des beaux jours et le retour des populations dans les parcs et places publiques. La verbalisation reste de mise sous condition d'un constat en flagrant délit des faits, 135 €, pour rappel. L'ensemble des infractions au code de la route représente une problématique majeure sur le banc communal. Des contrôles de vitesse sont effectués régulièrement et donnent lieu à des verbalisations. Les problèmes de stationnement sont récurrents et occasionnent des troubles à la circulation pour les cyclistes, les piétons et autres usagers des trottoirs et pistes cyclables. Le secteur corps de chasse Charmy est particulièrement touché par ce problème, vu la forte concentration de garages automobiles et la proximité d'un établissement pour personnes handicapées. Les trottoirs de la route de Lyon sont également quotidiennement encombrés de véhicules. Le comportement des contrevenants au respect des règles de stationnement relève plus d'un manque de civisme que d'un problème de place, étant donné l'étendue de la zone bleue et le nombre de places devant les commerces. Il n'est pas exceptionnel que des places soient libres alors que des personnes stationnent devant l'entrée des boulangeries ou autres commerces. Et enfin, les stationnements abusifs sont un phénomène récurrent. Les constats sont faits soit par les policiers lors de leur patrouille ou par signalement au poste de police par les riverains. Les relevés des véhicules et suivis sont inclus dans ces missions quotidiennes des agents. Et compte tenu de ces états des lieux, il ressort trois objectifs principaux. 1. La lutte contre les infractions routières avec plusieurs points. La sécurité routière avec le relevé des infractions mettant en jeu la sécurité des usagers de voies publiques ainsi que le sentiment d'insécurité routière. Les infractions relatives au stationnement, donc surveiller tout le stationnement des voies et du domaine public, notamment sur les zones bleues, et procéder le cas échéant en verbalisation des stationnements gênants et très gênants, notamment sur les places pour les personnes à mobilité réduite. 2e chapitre, la lutte contre les incivilités quotidiennes, avec dedans les infractions relatives au bruit, par rapport à tout ce que j'ai évoqué avant, les infractions relatives à l'hygiène et à la santé publique, notamment dans les ERP avec le contrôle des produits de vente alimentaire en cas de manquement aux mesures de sécurité, les infractions au code de l'environnement, et c'est notamment tout ce qui relève de la gestion des déchets et notamment des dépôts sauvages, et la lutte contre les dégradations de biens avec le renforcement des patrouilles dans les zones et lieux identifiés comme sensibles et la verbalisation de toute infraction constatée, jet d'immondices, regroupement générant des nuisances et des dégradations. Et enfin, 3e point, le rapprochement de la police et de la population d'Ilkirch-Graffenstaden avec renforcé dans le cadre de l'exercice de leur mission les contacts avec la population, notamment dans les relations de proximité avec les commerçants, les victimes ou encore les habitants des secteurs Liberman, Beaucite et Beaulieu. Lutte contre les cambriolages, avec lutter activement contre les cambriolages, notamment lors des périodes sensibles, estivales, et notamment la période de Noël, où c'est là où il y a le plus de cambriolages. Le prise de contact régulière avec habitants, commerçants et tout ce qui est proximité avec les centres commerciaux et les parkings publics, et lors d'organisation d'événements, avec la reconduction de cafés avec un policier lors du marché hebdomadaire, les opérations code de la route pour les seniors avec le conseil des aînés, les ateliers démarchage abusif pour les seniors avec le conseil des aînés, les interventions dans les écoles et les forums des métiers. Donc voilà la feuille de route, mais qu'on pourra vous donner et qui donne quand même une vue assez globale. Et donc j'ai ici le budget de la police municipale. Et donc sur les dépenses totales, on avait inscrit au BP 2023 510 370 euros pour la police municipale. On a au CA 588 635 euros qui ont été effectivement constatés au compte administratif. Et pour le BP 2024, on a inscrit 716 200 euros pour la police municipale, avec le principal poste aujourd'hui, c'est bien évidemment les dépenses de personnel, puisqu'on sera cette année sur 538 100 euros de dépenses de personnel. On a des éléments de petit équipement et autres, mais au regard des dépenses réelles de fonctionnement de la ville, ça fait 2,1% qui sont consacrés à la police municipale. Et en dépenses d'investissement, on a inscrit 153 000 euros cette année, avec 90 000 euros de vidéoprotection, autre matériel de sécurité, notamment les caméras piétons qui vont être renouvelées, 13 000 euros, et tout ce qui est ensuite études, travaux, 10 000 euros, et véhicules, 40 000 euros, puisqu'on a remplacé un des véhicules en reprenant un véhicule qu'on avait déjà en interne et qu'on va sérigraphier, hein, qui est un 3008 qu'on disposait déjà à la ville, et donc on va sérigraphier, équipé du nécessaire pour pouvoir l'utiliser. Et donc je vais répondre alors sur ce que vous me disiez sur le flashball. Alors effectivement, on a souhaité doter la police municipale d'Ilkirch de tout l'armement létal et non létal qui peut être à disposition de la police. Et ça a d'ailleurs été assez intéressant, puisque par exemple, quand on a vécu les émeutes urbaines l'année dernière, la police municipale a tenu seule le terrain, puisqu'on a eu du mal à avoir des effectifs de renfort de la police nationale, puisque j'étais d'ailleurs avec eux, et on a tenu le terrain tous les jours quasiment du début de la nuit jusqu'à 7-8 heures du matin. Et je peux vous dire qu'en termes de dissuasion, ben malheureusement aujourd'hui, dans l'arsenal d'armes non létales qui sont dissuasives, le flashball fait partie des outils qui sont assez intéressants. Bien évidemment, c'est un outil qui n'est pas en permanence sorti par la police municipale, mais qui est sorti sur des événements exceptionnels, et donc c'est pour faire face à des événements exceptionnels. Et je pense que vaut mieux se prémunir, puisqu'on voit bien que parfois l'actualité peut vite faire déraper des situations, même à Ilkirch-Graffenstaden. La brigade motocycliste, ça va permettre de travailler sur justement plutôt la sécurité routière. Et aujourd'hui, c'est prouvé qu'une brigade moto permet de mieux lutter contre la sécurité routière, puisque ça, c'est un outil qui est beaucoup plus maniable et plus facile à utiliser sur une circulation qui parfois peut être dense quand il faut rattraper un véhicule. Quand il y a peut-être quelqu'un qui pratique un rodéo routier, c'est aussi le deux-roues qui souvent permet de rattraper l'individu. Et ça permet aussi d'aller dans des lieux qui sont parfois moins accessibles et escarpés, type certaines pistes cyclables le long du canal, quand on a des signalements de scooters qui passent sans respecter les règles sur la piste, notamment le long du canal. Donc c'est un outil qui permet d'avoir finalement tout le panel à notre disposition. Et la vidéosurveillance, elle est structurée par un arrêté préfectoral qu'on avait obtenu de Madame la Préfète, qui reprend tous les éléments. Et donc vous pouvez consulter l'arrêté préfectoral, mais bien évidemment c'est une vidéo avec un poste de supervision où il n'y a que quelques personnes qui sont habilitées, notamment auprès de la police municipale, à pouvoir regarder les images en direct qui arrivent sur les écrans. Et sur la relecture des images, c'est parfaitement interdit sans réquisition de la police nationale. Et c'est ce qui se passe, hein, puisque régulièrement, la police nationale vient sur réquisition après un dépôt de plainte par un individu sur un fait, accident de la route, vol ou autre. Et à ce moment-là, on met les images à disposition, sachant qu'on garde les images 10 jours sur nos serveurs et que c'est des serveurs qui sont parfaitement sécurisés. Donc voilà pour les éléments. Et puis pour la convention CTS et université, oui, on a été sollicité par la CTS et l'université. D'ailleurs, vous avez vu que Schiltigheim avait adopté la convention avec la CTS avant la ville d'Ilkirch-Graffenstaden, puisqu'il y a une volonté de la CTS et il y a une volonté de la ville de pouvoir accompagner un certain nombre de voyages de tram, notamment, et de voyages en bus pour pouvoir aussi apporter un sentiment de sécurité et parfois en horaire décalé aussi régler certaines situations. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est apprécié à la fois par les clients de la CTS, de ce qui nous a été dit par le directeur général, Monsieur Ono, mais c'est aussi apprécié par les conducteurs qui parfois, sur des horaires décalés, peuvent se sentir un peu seuls face à certains individus qui peuvent, par exemple, avoir consommé de l'alcool ou autre. Et donc, ils sont tout à fait contents de cette démarche. Et l'université, en fait, c'était parce qu'il était nécessaire de, à un moment, pouvoir aussi intervenir sur le campus universitaire d'Ilkirch, puisque jusqu'à présent, c'était finalement une enclave sur laquelle on ne pouvait pas aller, alors que pour le commun des mortels, quand vous passez au niveau du campus universitaire, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une vraie frontière, puisque c'est des rues qui sont connectées aux autres rues et qu'on peut circuler facilement. Sauf que jusqu'à présent, seul le président de l'université était habilité à intervenir et à diligenter les forces de police. Et parfois, ça leur posait des soucis, notamment quand il y avait un véhicule qui était mal stationné ou quand il y avait un véhicule en stationnement abusif, puisqu'il fallait faire toute une procédure de réquisition par le président des forces de police, alors que là, la police passe régulièrement, en tout cas sur l'extérieur, puisque le but, ce n'est pas forcément d'aller à l'intérieur des bâtiments, mais c'est plutôt pour les voies de circulation qui existent sur le campus, notamment au niveau de la faculté de pharmacie et de l'IUT, où là, il y a parfois aussi des situations de stationnement abusif, puisque c'est considéré quasiment comme du domaine public pour le commun des mortels. Donc voilà pourquoi on a fait ça. Et je vous confirme qu'on a bien changé l'organigramme de la ville et que c'est bien. On a bien placé la police municipale sous l'autorité du DGS, mais dans les faits, l'autorité naturelle de la police municipale, c'est quand même le maire, puisque c'est le pouvoir de police du maire. Et donc, que même si la Chambre régionale des comptes veut un ajustement par rapport à un organigramme, dans la vraie vie, c'est quand même le pouvoir de police du maire qui s'exerce. Et donc, c'est le maire qui donne les consignes, bien évidemment, qui sont partagées avec le DGS. Et souvent, dans la pratique qu'on a avec M. Vincent Baume, c'est que je travaille avec M. Cougil plutôt sur la partie ordre de police, d'intervention, de structuration des missions. Et M. Vincent Baume suit plutôt les carrières, les demandes de congés, toutes ces choses-là, ce qui paraît être assez évident et ce qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour les éléments que je pouvais apporter, mais on pourra vous donner à la fois le tableau avec les dépenses de la police qui a été produit par notre directeur financier et le document cadre.